Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people housing.
France Inter, le 18-20.
Et pendant qu'à Bruxelles, les ministres de l'énergie cherchent une parade aux décisions de Moscou de couper le robinet de gaz aux Polonais et aux Bulgares, on va examiner justement ensemble ces nouvelles routes du gaz. On n'est pas dans le court terme, évidemment, mais dans un changement de pied fondamental, et on voit ça dans un tout petit instant. Le bruit du monde, le lundi, ce sont d'abord les notes vocales de Caroline Gillet et Natalia, notre russe de Saint-Pétersbourg, qui donne de ses nouvelles. Elle est loin, Natalia, désormais. Elle a quitté la Russie pour la Jordanie. Elle vous racontera ce périple. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Corinne Audouin, ce soir, a trouvé des prisons au Venezuela où on s'entasse à 47 au lieu de 10 dans une seule cellule. La Tunisie qui s'inquiète de ses Posidonies, vous comprendrez de quoi on parle. Vous verrez aussi qu'il faut faire gaffe à ce qu'on met dans ses bagages quand on est en vacances à Bagdad. 18h50, le bruit du monde selon Joe Biden et Sébastien Paour qui va nous raconter, puisqu'il y était, le fameux dîner des correspondants. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four et les Européens face au risque d'une escalade américaine en Ukraine. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Francis Perrin.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, vous êtes spécialiste notamment des problématiques énergétiques. Je le disais, donc les ministres européens sont à Bruxelles pour chercher une parade à cette décision russe de couper le robinet de la Pologne et de la Bulgarie, les robinets du gaz. Cette réunion, c'est un peu l'occasion de faire le point sur ce qui avait déjà été dit quand la guerre a commencé, où on en est aujourd'hui en termes de substitution. Mais quand même, d'abord, monsieur Perrin, un détail qui n'en est pas un, Pologne et Bulgarie, ce sont des marchés mineurs, on est d'accord, en termes de gaz. Je pense à la Pologne, par exemple, le gaz polonais, ça fait longtemps que les Polonais sont nettement moins dépendants. Aujourd'hui, on dit que c'est quoi, 18% du mix énergétique. Donc, ce ne sont pas deux pays fondamentaux, on est d'accord avec ça. La Russie n'est pas du tout en train de faire un geste, on va dire, symboliquement sans doute, mais en termes d'efficacité, beaucoup moins.
Vous venez de prononcer le mot symbolique.
Ouais.
Et chacun sait qu'il y a beaucoup de symbolique dans la géopolitique. Ça rime, et pas seulement sur la forme, mais aussi parfois sur le fond. La Russie exporte via Gazprom du gaz naturel vers plusieurs pays de l'Union européenne depuis des dizaines d'années. Mmh. Monsieur Poutine, le 31 mars, adopte un décret disant dorénavant, pour les pays inamicaux, ce qui inclut tous les pays de l'Union européenne, si vous ne payez pas votre gaz en rouble, vous n'aurez pas de gaz. Et quelques semaines plus tard, Gazprom coupe les livraisons de gaz à deux pays seulement de l'Union européenne, au prétexte qu'ils ne paient pas leur gaz en rouble. Alors que les autres pays européens qui apportent du gaz ne le font pas non plus.
Et personne, je l'ajoute à la réunion d'aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde l'a dit, on n'ouvrira pas un deuxième compte en rouble, il n'en est pas question.
Il y a en fait une exception en termes de, je dirais, de déclaration d'affichage politique. La Hongrie de Viktor Orban avait indiqué il y a quelques semaines, moi je suis prêt à payer le gaz en rouble pour continuer à avoir du gaz. Mais en dehors de cette infidélité, si je puis dire, qui n'est pas complètement surprenante, compte tenu de la proximité entre Viktor Orban et Vladimir Poutine, en dehors de cela, tous les autres pays européens sont sur la même ligne de l'Union européenne. Nous avons signé des contrats qui prévoient le paiement du gaz russe en euros ou en dollars. Aucun contrat ne prévoit le paiement du gaz en rouble. Donc il n'est pas question que nous acceptions que la partie russe, de façon unilatérale, modifie les termes d'un contrat, de plusieurs contrats, signés il y a des années. Et on est toujours sur cette ligne-là. Alors, comme vous l'avez dit, pourquoi frapper ces deux pays? Alors, évidemment, les relations russo-polonaises,
sont
depuis
très
longtemps, à Moscou, la Pologne, c'est la bête noire au sein de l'Union européenne. C'est le pays par lequel passe une bonne partie de livraison d'armes et d'équipements militaires des pays de l'OTAN vers le front ukrainien. C'est un pays qui accueille un très grand nombre de réfugiés ukrainiens. C'est au sein de l'UE le pays qui pousse le plus fort pour de nouvelles sanctions de plus en plus dures, y compris énergétiques, contre la Russie, etc., etc.
Qui s'est même refait une virginité quasiment vis-à-vis du reste de l'Union, ce qui était loin d'être le cas précédemment.
Ça change la donne, évidemment, par rapport à un certain isolement des dirigeants polonais. Là, ils sont au centre de l'Europe, de la guerre en Ukraine, et j'allais presque dire du monde, quelque part. La Bulgarie, c'est plus compliqué, parce qu'il n'y a pas si longtemps, les relations Bulgarie-Russie étaient plutôt bonnes, mais il y a eu un changement de gouvernement. Et le gouvernement bulgare a pris ses distances avec Moscou. Et il est fort possible que les autorités russes veuillent punir la Bulgarie. Pour ce changement, M. Poutine n'apprécie pas toujours que, à ses yeux, on le, entre guillemets, trahisse. Il a la dent dure. Et puis, il y a un autre élément, c'est que ce sont deux pays d'Europe centrale et orientale. On disait avant Europe de l'Est. Donc, des pays qui étaient, par le passé, sous l'orbite de l'URSS. Et quelque part, dans la vision du monde de Vladimir Poutine et de l'Europe, il y a deux Europes. Il y a l'Europe occidentale. Alors là, évidemment, on fait un peu plus attention.
Ouais. Mais je commande
Allemagne,
toujours aux autres.
France, Italie. Les pays d'Europe centrale et orientale, quelque part, c'est pas, ils ont beau être, faire partie de l'Union européenne comme les autres, dans la vision de M. Poutine, c'est pas tout à fait la même chose.
Vous êtes toujours mes satellites et je vous commande toujours. Sauf que là, effectivement, la réponse est non. Encore une fois, je voudrais revenir sur le mix énergétique qui est finalement assez peu important pour ce qui est de la Pologne. Et pour ce qui est de la Bulgarie, c'est aussi important de le souligner. Et surtout, où on se dit, en tout cas c'est ce que disent les Polonais, vous allez nous dire s'ils ont raison ou s'ils font de la politique aussi, où la substitution est possible.
Alors, clairement, la Pologne s'attendait depuis un moment à ce qui a été annoncé le 27 avril. L'arrêt des livraisons de gaz russe par Gazprom à la Pologne. Et donc, ils s'y étaient préparés. C'est l'avantage quand on s'attend à quelque chose. Ils n'ont pas d'illusions sur la nature du pouvoir russe à Moscou. Ils ont une production de gaz nationale. Pas suffisante, mais ça vaut mieux que rien. Ils ont installé un terminal pour recevoir du gaz naturel liquéfié, transporté par bateau, sur leur territoire national. Ils ont des stocks gaziers importants. Normalement, les stocks, on les consomme pendant l'hiver, parce que pendant l'hiver, avec les besoins de chauffage, on consomme plus de gaz que pendant l'été, c'est logique. Et donc, on sort de l'hiver avec des stocks faibles, on les reconstitue après pour l'hiver prochain. Les Polonais sortent de l'hiver 2021-2022 avec des stocks remplis à 75-80%. Ce que aucun autre pays de l'Union européenne ne peut faire. Ça veut dire évidemment qu'ils préparaient, ils se préparaient. Et il y aura bientôt un gazoduc qui les reliera à la Lituanie. La Lituanie qui, elle aussi, a un terminal pour recevoir du gaz naturel liquéfié. Et en octobre, il y aura un oléoduc qui arrivera, un gazoduc, pardon, qui arrivera de Norvège.
Le Baltic Pipe, c'est
celui-là. Le Baltic Pipe, absolument, tout à fait. Et donc, pour toutes ces raisons-là, les dirigeants polonais, c'est pas seulement de l'affichage ou de la communication, pour parler familièrement, les dirigeants polonais ont toutes les raisons sur le plan énergétique, s'y étant préparés, de ne pas être inquiets. La Bulgarie, c'est plus délicat. Ils ont peu de stocks. Ils n'importent pas de gaz naturel liquéfié. Ils sont un peu plus isolés géographiquement, alors que la Pologne est plus centrale en termes de position en Europe. Ça veut dire qu'elle est reliée à plusieurs pays par des gazoducs. La Bulgarie aura besoin d'une aide européenne forte pour l'aider à passer cette passe difficile.
Mais avec une substitution Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, par exemple, il n'y a pas moyen de passer, alors, là si aussi, de contourner, de passer par l'autre route.
Clairement, les dirigeants bulgares ont un œil sur l'Azerbaïdjan, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a un gazoduc donc, qui part de la mer Caspienne, Azerbaïdjan, Géorgie, Turquie, Union européenne, jusqu'en Italie. Et par ailleurs, ils regardent aussi du côté de la Grèce, qui a certaines possibilités également d'approvisionnement. Donc ce serait assez logique du point de vue géographique.
Grèce et Italie d'ailleurs, potentiellement, non ?
Oui, alors Italie est un petit peu plus loin, mais ce n'est pas exclu. Quand on est face à ce type de situation, il faut faire feu de tout bois. Mais disons que les Polonais se sont préparés depuis longtemps, et eux, c'est pas un grand problème. Les Bulgares, c'est plus compliqué, et il faut cette solidarité européenne qui doit jouer. Quand on dit Union européenne, ça veut quand même dire quelque part solidarité.
Mais ce que ça veut dire là-dessus, Monsieur Perrin, c'est que, alors certes, on a bien vu que c'était plus compliqué pour les Bulgares, et la solidarité effectivement européenne probablement va jouer. Mais ce que ça veut dire, c'est que à ce stade du chantage, chacun ménage terriblement la chèvre et le chou. On sait bien là en Europe qu'on prend pas d'énormes risques puisqu'on n'a pas touché ni à l'Italie, ni à la, ni à l'Allemagne, ni à la France, ni aux Pays-Bas, ceux qui sont les plus dépendants.
Bien sûr.
Et les Russes ne se tirent pas une balle dans le pied non plus, parce que s'ils couplaient ces autres robinets, pour le coup, ils se privent d'une manne financière qui est très importante. Donc on est en train de jouer là, non ?
Alors, il y a un jeu. Dans la géopolitique mondiale, il y a un jeu. Alors un jeu évidemment extrêmement sérieux, avec des enjeux, c'est le cas de le dire, considérables. Mais il y a une part de jeu. Il y a une part de bluff, il y a une part de poker menteur. Et M. Vladimir Poutine est assez fort quand même dans ce domaine-là. Régulièrement, il lance soit des déclarations qui font peur, soit des initiatives qui peuvent faire peur également. Et il regarde un petit peu ce qui se passe du côté européen. Comment réagissent les Européens unis ou en ordre dispersé? Est-ce qu'ils sont en train de trembler de peur? Ou est-ce qu'ils sont forts? Ou est-ce qu'ils réagissent par d'autres sanctions? Ce qui pourrait être le cas. On pourrait réagir à ce qui vient de se passer sur le gaz par des sanctions pétrolières. Embargo pétrolier contre la Russie, c'est en train d'être discuté aujourd'hui par les ministres de l'énergie de l'Union européenne. Donc, ils testent, ils lancent des ballons d'essai. Et il faut interpréter ce qui vient de se passer le 27 avril sur la coupure des livraisons de gaz à deux pays de l'Union européenne seulement comme un ballon d'essai.
Ça veut dire que si on ne répond pas là à l'issue de cette réunion à Bruxelles, à nouveau, Vladimir Poutine mettra la main sur le fourneau pour voir si c'est chaud.
Et puis évidemment, au niveau européen, quelles sont les questions que se posent un certain nombre de pays depuis le 27 avril? Ce sera qui le troisième? Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera etc. Et Vladimir Poutine adore ce genre de situation. Cela dit, effectivement, c'est vrai que le gaz, dans les enjeux énergétiques liés à la guerre en Ukraine, par rapport à la Russie, nous importons de la Russie du pétrole brut, des produits raffinés, du gaz naturel, du charbon. Donc, à peu près tout le spectre des énergies fossiles. Mais dans ces quatre dimensions que je viens d'évoquer, la plus complexe pour l'Union européenne, c'est le gaz naturel.
D'ailleurs, le charbon a été le premier enlevé, ça a été facile, entre guillemets.
Ça a été assez facile.
Le pétrole, ce sera pas facile,
le
mais
pétrole,
c'est moins compliqué.
On est en train d'en discuter maintenant, on verra ce qui sera annoncé, mais on sent que l'Allemagne, qui avait un veto, a évolué dans les derniers jours en disant « je ne suis plus hostile maintenant, moi, Allemagne, à un embargo pétrolier européen, mais je pense qu'il faut regarder aussi un petit peu les autres, Hongrie, Slovaquie et tout ». Mais pour l'instant, les Allemands et quelques autres pays, Hongrie, Autriche, Italie, sont quand même pas très allants pour un embargo immédiat sur le gaz. Rappelons quand même que l'Union européenne a pris la décision politique à 27 de se passer complètement du pétrole et du gaz russe dans 5 ans.
Ouais.
2027. Mais l'enjeu, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas
réduire significativement sur un an et sur 5 ans.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller beaucoup plus vite pour plein de raisons qui peuvent être éthiques, géopolitiques, économiques, etc. Mais sur le gaz, on sent que c'est le principal point de blocage du côté de certains pays de l'Union européenne.
Alors où est-ce qu'on en est justement de ces substitutions? On a bien vu dès le début qu'il y avait eu de nouveaux contrats qui ont été passés avec les États-Unis.
Oui.
Notamment, on parle de gaz liquéfié, on sait ce que ça veut dire.
Oui.
Ça veut dire qu'il faut le regazéifier. Ce sont des investissements qui sont de très gros investissements. On a vu la route de l'Algérie. On a bien compris que cette route, elle existait.
Oui.
Mais que beaucoup plus de quantité, c'était beaucoup plus compliqué pour l'Algérie, on a vu la route des pays arabes qui s'ouvrait. Où est-ce qu'on en est, en fait? Si on fait le point aujourd'hui, est-ce qu'on a ouvert de nouvelles routes gazières?
Alors,
en deux
ces
mois
discussions gazières durent depuis plusieurs semaines, avant même le 24 février 2022. Il y a eu un accord États-Unis-Union européenne pour des livraisons supplémentaires de gaz naturel liquéfié américain dès 2022 et qui pourront monter en puissance dans les prochaines années pour atteindre jusqu'à 50 milliards de mètres cubes par an. C'est à peu près le tiers de ce que l'Union européenne importe comme gaz russe par gazoduc. Donc c'est pas négligeable. L'Italie a signé un contrat avec l'Algérie pour importer plus de gaz algérien. C'est signé à travers le gazoduc Transmed, Algérie, Tunisie, Méditerranée, Algérie. Il y a des discussions avec l'Égypte, il y a des discussions avec le Nigeria, il y a des discussions avec la Norvège, l'Azerbaïdjan, dont le Baltic Pipe que nous évoquions, qui vient de Norvège, qui sera opérationnel à partir d'octobre. Il y a des discussions avec le Qatar, qui est l'un des très gros exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié. Il y a un accord sur le principe, mais entre un accord sur le principe en disant « moi, Qatar, je suis prêt à envoyer vers l'Europe plus de gaz », et puis à signer des contrats précis, évidemment avec les conditions de prix, de volume, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est avancé. Donc il y a des choses qui avancent, et puis n'oublions pas que pour se passer du gaz russe, pour l'instant à 5 ans, pour l'instant, il faut aller chercher du gaz ailleurs, c'est ce que nous évoquons. Mais il faut aussi, dans la stratégie européenne, remplacer une partie du gaz que nous consommons par autre chose, par exemple dans la production d'électricité. Si on développe des projets éoliens, solaires, dans certains pays nucléaires, on consommera moins de gaz pour produire l'électricité, donc on aura moins besoin d'importer du gaz russe. Plus le troisième levier, faire des économies d'énergie à court terme sur notre consommation actuelle. Exemple, si au niveau Union européenne, on baisse le thermostat d'un degré, on économise 10 milliards de mètres cubes de gaz par an sur l'Union européenne.
D'autant qu'on quitte tous l'hiver là collectivement. Monsieur Perrin, on se dit que le plus facile, j'y mets des guillemets parce que rien n'est simple, ce sont les États-Unis effectivement parce que il y a une manne qui est là. Est-ce qu'on se dit qu'à terme et à cause de cette histoire ukrainienne, les États-Unis peuvent devenir pour le gaz ce que les pays arabes sont au pétrole par exemple? Est-ce qu'on peut en arriver là?
Alors les États-Unis, avant même cette guerre, était déjà le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie, le premier producteur mondial de gaz naturel devant la Russie. Donc c'est une puissance énergétique considérable en termes d'énergie fossile, particulièrement hydrocarbures, pétrole et gaz naturel. Ils sont, depuis quelques mois, l'un des trois premiers exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, transporté par bateau, les deux autres étant Qatar et Australie. Et ils ont la capacité de monter en puissance dans les mois et les années qui viennent. Donc, effectivement, ils sont très bien placés. Mais les États-Unis, quelle que soit leur puissance énergétique qui est très importante, ne pourront pas remplacer à eux seuls le pétrole et le gaz russe. La solution sera, pour le gaz États-Unis, plus Qatar, plus Algérie, plus Norvège, plus Azerbaïdjan, plus. Et même chose pour le pétrole, pas forcément les mêmes pays, mais c'est ça l'esprit. Il faut mettre ensemble plusieurs pays pour des livraisons supplémentaires vers l'Europe, pour pouvoir à terme, je ne dis même pas immédiatement, se passer du gaz et du pétrole russe.
J'ai une dernière question pour vous, Monsieur Perrin, une question à l'envers. En fait, on a bien compris aussi que les Russes ne sont pas fous. Ils ont bien compris qu'il y aurait des fermetures du côté de l'Ouest, donc ils ont ouvert, eux, de l'autre côté, vers l'Asie, vers l'Inde, etc. Est-ce que leur avancée à eux, dans cette direction-là, pour compenser, est aussi avancée au fond que la nôtre, pour essayer de se passer de leur gaz?
Non. Non, parce que l'Union européenne, l'Europe en général, l'Union européenne en particulier, est le principal marché pour le gaz russe depuis des dizaines d'années. Et ça, ça ne peut pas se changer en appuyant sur un bouton du jour au lendemain à partir du 25 février 2022. Cela prend du temps. La Russie exporte déjà du gaz vers la Chine par gazoduc. Elle va en exporter plus. Pour l'Inde, il n'y a pas grand-chose encore. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses demain. Mais demain, dans le gaz, ça ne veut pas dire dans un jour. Ça veut dire dans des années. Donc la perte possible du marché européen pour la Russie, pour Gazprom en matière de gaz,
n'est pas compensé.
Ce serait une très, très mauvaise nouvelle pour eux.
Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRI, spécialiste des problématiques énergétiques. Je sens que vous allez revenir parce qu'on verra ce qui se décide là aujourd'hui à Bruxelles.
Avec
il y en aura
plaisir.
D'autres des décisions de ce genre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse, sur France Inter.
La suite ce soir, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet avec Natalia, qu'on a déjà croisée chez elle à Saint-Pétersbourg. Elle a quitté la Russie, elle est très très loin. Pour aller jusqu'à 19h sous les radars, c'est vous Corinne Audouin.
On ira voir comment vont les herbiers de Posidonie au large de la Tunisie. Il y a urgence à sauver ce carbone bleu.
Le monde de Joe Biden et Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Salut Fabienne, chronique en smoking ce soir pour le dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche avec tout le gratin politico-médiatique de Washington et avec Joe, Trevor et Kim K.
Oui, il paraît que ça vous va très bien. Le monde d'après, c'est vous Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. Alors chronique en treillis, moi, au moment où la stratégie de Washington devient de plus en plus offensive vis-à-vis de la Russie, on va s'interroger. Les Européens doivent-ils nécessairement emboîter le pas aux États-Unis?
Bah écoutez, moi je suis habillé normal pour vous dire que le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par la Grande-Bretagne avec Pete Doherty et le français Fred Loof, dit épidémiologiste. C'est sur France Inter et dans Un jour dans le monde.
The best laid plans can oft go to fuckery. Run down B&Bs can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search, I lurch headlong into atrocity. With an exponential no, no need to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos. Hip hop, bebop, all blues and punk rock. Heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and headlong into atrocities with a velocity known only to very few rational. Zero, zero.
atrocities with an explanation, no, no way to epidemiology. Dashi Elhaman, Emile Lejeune, Peter Lorre and Humphrey Bogart, Jane Seabird, Daniel Dark, panic in the streets and panic in Needle Park. Oh yes, I search and I search, and I lurch headlong into atrocity with an exponential no need to verify.
Это творение.
Хорошо, отлично.
Le bonjour de lundi, ce sont les notes vocales d'Ukraine de Caroline Gillet. Bonsoir Caroline.
Bonsoir Fabienne.
Les notes vocales d'Ukraine, ce sont les journaux de bord sonores d'une dizaine d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes qui racontent avec leur téléphone portable comment elles et ils traversent cette guerre. Depuis le début de ce conflit, Caroline, on entend aussi régulièrement Natalia, qui est russe, qui avait participé en février et début mars d'ailleurs aux manifestations contre la guerre depuis sa ville de Saint-Pétersbourg.
C'est ça, et la dernière fois qu'on l'a entendue, elle était partie en voyage pour rendre visite à ses grands-mères qui vivent à des dizaines d'heures de train au sud du pays. Elle avait le temps de faire le déplacement alors parce qu'avec la guerre contre l'Ukraine, elle a perdu son emploi dans une école de langue, ses clients étrangers y ont quitté le pays. Et si elle est allée voir ses grands-mères qu'on a entendues là à l'instant, c'était aussi pour leur dire au revoir parce que Natalia a décidé de s'exiler, mais ça, au moment où elle enregistre et qu'elle va les voir, elle ne leur a pas encore avoué.
Elle pense que je vais revenir après l'été. Juste, je pars en vacances. À cause de la situation politique, je pense que je vais partir pour longtemps. Je ne peux pas dire peut-être toute ma vie, mais quand même, même si j'aime beaucoup Saint-Pétersbourg, j'aime la Russie, j'aimais vraiment de vivre ça. C'était ma ville idéale. À part du climat. Toute ma vie, j'habitais là. Ma famille, mes grands-parents, mes parents, mon frère, ils ne veulent pas. Et en plus, ils ne peuvent pas déménager. Mais moi, je vais le faire parce que je suis vraiment très déprimée par la situation qui se passe. Et j'ai le sentiment qu'on a volé ma vie. Cela veut dire toute ma vie, j'étudiais, je travaillais, je payais les impôts. Tout s'arrête. Maintenant, nous les Russes, on peut décider si on veut rester, si on veut aller. On peut décider quelle date on peut acheter les billets. Et les Ukrainiens, ils ne peuvent pas décider. Ils doivent quitter leur maison parce qu'il y a la guerre. Et ce fait me rend vraiment triste. C'est comme, oui, j'ai des problèmes, je dois prendre une décision difficile, je vais être loin de ma famille, mais quand même, je suis dans la situation où je peux décider parce qu'il n'y a pas d'armée dans ma ville, dans mon pays.
Il y a un tout petit peu plus d'une semaine, Natalia nous a écrit pour nous dire qu'elle était arrivée en Jordanie. Le visa est facile à obtenir depuis la Russie, mais la mauvaise surprise, c'est que, comme chez elle, ça reste impossible de changer ses économies en euros ou en dollars. Natalia continue de donner des cours en ligne de langue, mais sa carte ne fonctionne pas en dehors de la Russie. Elle ne peut donc pas toucher son salaire et elle se retrouve pour le moment bloquée dans une situation de plus en plus précaire. Ce qu'on entend là, c'est la vie nocturne le soir dans les bars en bas de l'appartement qu'elle a loué. Elle n'y traîne pas trop parce qu'elle n'a plus les moyens. Elle dit encore, alors bien sûr, ma situation est incomparable avec celle des Ukrainiens, mais quand même, ma vie, elle a beaucoup changé.
Je pensais que tout mon temps libre, je vais sortir, je vais passer mon temps au café, au restaurant, je vais rencontrer les nouveaux gens, mais à vrai dire, je ne suis pas en bonne humeur. Je pensais que si je déménage, tous mes problèmes vont être résolus. Mais en plus, les gens dans la rue, ils pensent que je suis ukrainienne.
je ne sais pas pourquoi. Et quand je dis que non, je suis russe, les visages changent vraiment, mais il faut toujours expliquer que oui, je suis russe, mais quand même, j'ai quitté la Russie parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe là. Même si j'ai beaucoup de soucis, quand même, je me sens vraiment calme. Parce que, par exemple, je suis dans la rue et je ne vois pas la lettre Z. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très important. En Russie, on est vraiment déprimé. Et quand on sort et on voit ces lettres Z dans le métro, dessinées sur les voitures, c'est terrible. Maintenant, je me sens plus calme et plus heureuse.
Natalia, depuis son exil jordanien,
ouais,
bah on verra si elle y reste et comment ça se passe pour elle. Elle nous donnera de ses nouvelles.
Tout à fait.
Merci beaucoup, Caroline. Merci. Toutes les notes vocales sont à retrouver, évidemment, sur Notes Vocales d'Ukraine sur franceinter.fr. Voilà, merci. Comme ça, au moins, c'est facile. Merci beaucoup et à lundi prochain. Sous les radars et Corinne Audouin ce soir. Corinne, direction le Venezuela, où 47 détenus entassés dans un cachot prévu pour 10 se sont révoltés.
Oui, ça se passe à Los Guayos, dans l'état de Carabobo, à 160 km de la capitale Caracas. Vous les avez entendus dans cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Ces hommes ont pris hier soir 3 policiers en otage. Ils les ont enfermés avec eux dans le cachot de ce commissariat. On les voit presser le visage d'un des policiers contre les barreaux. Selon l'Observatoire vénézuélien des prisons, ils étaient 47 dans une cellule prévue pour 10 personnes maximum. Alors ce sont des cachots de la police, on n'est pas censé y rester plus de 72 heures. Mais la surpopulation carcérale est telle au Venezuela que certains y purgent leur peine. Alors à plus de 40 par cellule, ça signifie que beaucoup de ces détenus dorment debout. Alors les familles des détenus, comme cet homme que vous entendez, sont venues sur place à Los Guayos pour éviter une issue dramatique. Ces dernières années au Venezuela, plusieurs émeutes se sont terminées par la mort de dizaines de détenus. Pour manger, pour se soigner, les prisonniers dépendent entièrement de leur famille. À Los Gallos, ils se seraient révoltés après la mort d'un détenu diabétique faute de soins. Après des négociations, les détenus ont finalement libéré les 3 policiers. Tous les 3 sont blessés à la tête et 70 détenus ont obtenu leur transfert vers une autre prison.
En Tunisie, Corinne, des chercheurs alertent sur l'état des herbiers de Posidonie.
Oui, on l'appelle le carbone bleu.
D'ailleurs.
La Posidonie, oui. C'est cette herbe qui forme de véritables forêts sous-marines. Les plus grands herbiers de la Méditerranée sont en Tunisie. Elles représentent 1 million d'hectares qui abritent les poissons et préservent le littoral de l'érosion puisqu'ils cassent les vagues. Et comme les forêts terrestres, la Posidonie stocke le carbone et produit de l'oxygène. Mais les chercheurs en écologie marine alertent, elle disparaît beaucoup plus vite qu'elle ne repousse. En Tunisie, 70% des habitants vivent le long de la côte. L'aménagement du littoral, la pêche illicite, le déversement de produits chimiques, tout ça détruit la Posidonie. Et il n'est pas rare de voir des bulldozers évacuer les banquettes de Posidonie échouées sur la plage. Or, même quand elles sont échouées, même si c'est moche, eh bien, ça protège les côtes. Alors, ce pêcheur de Monastir attrape 3 fois moins de poissons qu'il y a 25 ans. Et si la Posidonie disparaît, explique-t-il, il y aura de moins en moins de poissons. Et la pêche, c'est son gagne-pain, aussi celui de ses enfants, de ses petits-enfants. Il déplore que les pêcheurs qui cherchent d'abord à nourrir leur famille n'aient pas protégé la Posidonie et il regrette surtout l'inaction de l'État. Alors pour sauver ce trésor, la Tunisie s'est décidée à agir. L'Agence gouvernementale de protection et d'aménagement du littoral va créer 4 zones marines et côtières protégées pour sauver les plages de Tunisie dont la moitié pourrait disparaître. Or, elles sont l'un des grands attraits touristiques du pays et vous ne le saviez pas Fabienne, mais c'est aussi grâce à la Posidonie que l'eau est transparente comme le cristal.
Mais non, je ne le savais pas. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait partir en vacances à Bagdad et voici la mésaventure de ce touriste britannique, arrêté donc dans la capitale irakienne avec des fragments archéologiques dans ses bagages.
Il s'appelle James Fitton, il a 66 ans et c'est un géologue à la retraite. Le 20 mars dernier, en effet, il termine un voyage organisé en Irak. Il y en a quelques-uns, assez peu, mais ça commence à revenir un petit peu. Les douaniers de l'aéroport de Bagdad trouvent dans ses bagages des fragments de pierre et des éclats de poterie. Il les a ramassés sur le site d'Eridu. C'est une ancienne cité sumérienne dans le sud de l'Irak. Et on ne plaisante pas avec les antiquités dans le pays, frappées par des décennies décennies de guerre et de pillage. James Fitton est en détention provisoire depuis plus d'un mois. Sa famille se mobilise pour demander sa libération. Selon la loi irakienne, il encourt quand même la peine de mort. Oula. Alors, est-ce qu'il s'est pris pour Indiana Jones? Pas du tout, assure son gendre. C'est un retraité, il voulait emporter un souvenir de voyage et surtout les guides qui encadraient son séjour organisé l'auraient assuré qu'il pouvait y aller, ses morceaux étaient sans valeur. Alors sa famille vient de lancer une pétition et l'ambassade de Grande-Bretagne suit le dossier de très près.
Bah écoutez, on suivra aussi. Merci beaucoup Corinne Audouin. On vous retrouve demain et vous partez avec les Gilberto père et fille.
Joao. J'adore.
Et Bébel, le titre il vient tout seul. Allez. Écoutez, Joao Gilberto, Bébel Gilberto. Allez, on ne change pas de continent, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde. I pledge to be a president who seeks
not to divide. L'Amérique de Biden en tenue de gala, Sébastien Paour, ça vous va très bien. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, parce que vous m'avez pas envoyé de photos. Traditionnel dîner, s'il vous plaît, ouais, traditionnel dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche. Donc c'était samedi soir à Washington. Le président américain, évidemment, y était, et donc vous aussi.
Et en smoking, oui, pour vous servir, tenue de soirée obligatoire dans l'une, si ce n'est la soirée politico-médiatique la plus courue de l'année aux États-Unis. Elle est organisée depuis presque 100 ans par l'Association des correspondants de la Maison-Blanche pour défendre le premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté de la presse et la liberté d'expression plus généralement. Donc on se retrouve dans la gigantesque salle de bal ovale de l'hôtel Hilton de Washington, tapis rouge, photographe, caméra, c'est presque Cannes, puis hymne debout pour les quelques 2600 invités qui prennent place autour de table ronde de 10 personnes. Les grands médias comme CNN en ont plusieurs. Ils sont en face de l'estrade sur laquelle se trouve notamment le président de l'Association des correspondants et celui des États-Unis. Pour Radio France, votre serviteur était un peu plus loin, à l'extrémité de la salle, faut le dire, avec les collègues de RFI de France Télévisions et des confrères italiens, turcs, pakistanais, bangladais et sud-coréens. Voilà le décor.
Avec un repas un petit peu cher pour ce qu'il est quand même, non, Sébastien?
Oui, mais le ticket sert à mettre le pied à l'étrier à de futurs jeunes journalistes et à payer la soirée, évidemment. Et puis surtout, on ne vient pas là pour manger, on vient là pour écouter le président américain qui participe à ce rendez-vous. C'est la tradition depuis 1924, sauf Trump, qui n'y a pas assisté pendant son mandat. Il n'aime pas beaucoup les journalistes, vous vous souvenez. Mm-hmm. Mais son successeur, lui, Joe Biden, était là. Première fois donc après les 4 ans de Trump, les 2 années de pandémie qui ont tout simplement annulé le rendez-vous. Et voilà ce que Joe Biden a dit au début de son discours.
C'est la première fois que le président assiste à ce dîner en 6 ans. C'est compréhensible. Nous avons eu une horrible peste suivie de 2 années de Covid.
Voilà, le temps est donné. On est là pour se moquer un peu et en premier lieu du président lui-même. Vous verrez ça dans un instant. Biden a tout de même rappelé que les quelques 3000 personnes dans la salle étaient toutes vaccinées contre le Covid, testées le jour même. Pas de masque pour la grande majorité des invités. Il a rendu hommage aux journalistes, notamment ceux qui risquent leur vie en Ukraine depuis 2 mois. Il a d'ailleurs une nouvelle fois utilisé l'expression crime de guerre à propos de la Russie. Avant de passer la parole à l'humoriste Trevor Noah, comédien sud-africain qui est très populaire ici aux États-Unis. Il a un show à son nom sur la chaîne Comedy Central. C'est lui aussi qui a été choisi pour présenter la dernière cérémonie des Grammy Awards. Voilà comment Biden lui a laissé le pupitre.
Mesdames et messieurs, je vais passer la parole à Trevor maintenant. Je m'installe dans mon siège, Trevor. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez charrier le président des États-Unis. Et contrairement à Moscou, vous n'irez pas en prison.
Encore une petite pique à Biden, éclat de rire évidemment, le président a parlé un petit quart d'heure en tout.
Et donc, pardon, parole ensuite à Trevor Noah, pardon Sébastien.
Oui, c'est la tradition à ce dîner, il y a un artiste qui se moque à la fin de la soirée du président et de sa politique. Alors Trevor Noah interpelle d'abord les journalistes venus en pleine pandémie à ce qu'il nomme l'événement super contagieux le plus chic du pays. Il dit qu'il a hésité à venir, qu'il n'avait pas envie de prendre une baffe comme celle de Will Smith aux Oscars. Et il termine comme ça en réponse à Biden.
In America, you have the right to seek the truth and speak.
En Amérique, vous avez le droit de dire la vérité, d'en parler, même si ça met les gens au pouvoir mal à l'aise, même si ça met vos téléspectateurs ou vos lecteurs mal à l'aise. C'est vraiment incroyable. J'étais là ce soir, je me suis moqué du président des États-Unis. Et il ne va rien m'arriver. Il ne va rien m'arriver, hein?
I'm gonna be fine, right?
22h30, la soirée de gala est terminée, on s'est moqué, on s'est montré, on a surtout pris pas mal de photos, moi y compris, des selfies quand c'était possible. Il y avait là Kim Kardashian et son compagnon, la mannequin Miranda Kerr, l'actrice Drew Barrymore, pas mal de membres de l'équipe Biden bien sûr, sa porte-parole James Psaki, le chef de la diplomatie Tony Blinken, et puis des vedettes du petit écran américain que vous aimez beaucoup, comme l'indéboulonnable Wolf Blitzer de CNN.
Et ben voilà, et vous savez ce qu'elle a dit Kim Kardashian avant de partir Sébastien? Elle dit, mais c'est qui le gars en costume à côté de Sébastien Power?
Ah.
Allez, je vous embrasse, à la semaine prochaine.
Moi aussi, la bise, ciao.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les États-Unis ont donc décidé de passer, de surmultiplier la vitesse en Ukraine. Aide militaire massive, déplacement de dirigeants politiques en série à Kiev. La stratégie de Washington est de plus en plus offensive vis-à-vis de la Russie. Et pour vous, les Européens, feraient mieux d'y réfléchir 2 fois avant d'emboîter le pas des Américains. C'est votre monde d'après.
Oui, le cow-boy américain est de retour, hein, chassé le naturel, il revient au galop. L'évolution de Washington est spectaculaire. Le shérif John Wayne est revenu, décidé à se débarrasser de son vieil ennemi, le hors-la-loi Vladimir de Moscou. Alors que souvenez-vous, il y a 2 mois, au début de la guerre, les États-Unis avançaient sur des œufs, désireux de ne pas être perçus comme des co-belligérants dans le conflit. Mais les revers subis par l'armée russe depuis 2 mois ont tout changé. Washington, comme grisé par les échecs de l'ennemi, est devenu va-t-en-guerre. Le package d'aide à l'Ukraine finalisé ces derniers jours est tout bonnement colossal. 33 milliards de dollars, dont les 2/3 consacrés à de l'aide militaire, armes offensives comme défensives, c'est 10 fois plus, oui 10 fois plus que toute l'aide fournie depuis 2 mois. Et puis il y a les paroles. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Kiev ce week-end, défend l'idée qu'il faut aller jusqu'à la défaite de la Russie. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, préconisait un peu plus tôt l'affaiblissement de la Russie de façon durable. Donc il ne s'agit plus seulement, comme au début, d'aider l'Ukraine à se défendre contre une agression. Il s'agit de pousser l'avantage, de solder un vieux compte hérité de la guerre froide, tout en apparaissant comme le général de la cavalerie. Le but de guerre de Washington a changé, comme si l'Ukraine n'était plus que l'instrument d'un objectif plus large, battre militairement la Russie.
Et donc, Jean-Marc, c'est dangereux ?
Ça peut l'être. Il faut toujours se méfier des va-t-en-guerre. D'abord, c'est un effet mécanique. Plus il y a d'armes sur un théâtre de conflit, plus le risque augmente qu'elles soient utilisées. Le plan colossal annoncé par Washington signifie concrètement le déversement de milliers d'armes en Ukraine, des missiles, des canons, des avions, des chars, avec aussi, soit dit en passant, le risque de les voir atterrir à terme dans des mains inconnues, voire ennemies, tant les trafics d'armes font partie du paysage de longue date dans cette partie de l'Europe. Ensuite, il y a bien entendu le risque de l'engrenage, le risque de voir la Chine s'impliquer, même indirectement, parce qu'elle ne voudra pas d'une Russie trop affaiblie, le risque surtout de voir Moscou faire monter les enchères. Quand on entend Lloyd Austin vouloir affaiblir durablement la Russie sur le plan militaire, on aimerait bien une explication de texte, parce qu'on ne peut pas écarter le risque de voir Poutine utiliser une arme nucléaire qu'il brandit déjà comme une menace. Et alors, qui se retrouvera en première ligne ? Le seul Européen, pas le seul Américain. Donc, l'oncle Sam est bien gentil de vouloir régler ses comptes avec son cousin Vladimir, mais les Européens peuvent être les premiers à payer les pots cassés.
Et donc, Jean-Marc, vous invitez l'Europe à penser par elle-même, c'est un peu l'idée ?
Oui, la guerre en Ukraine nous en fournit en fait l'occasion adéquate. Quel est l'intérêt, non pas des États-Unis, mais des Européens ? Voilà la bonne question. Est-ce que c'est d'humilier la Russie ? Certainement pas, parce qu'au-delà de la personne de Poutine, ce serait créer les conditions en Russie d'un fort ressentiment nationaliste et revanchard, donc semer les graines d'un autre conflit plus tard. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse en psychologie ou en sociologie pour comprendre ça. Sans oublier qu'entre-temps, l'Europe va, au fil des mois, sentir passer, vous en parliez tout à l'heure, sentir passer de plus en plus la facture économique, celle de la rupture avec le gaz ou le pétrole russe. Donc il faut ménager des portes de sortie à Moscou. Et dire ça, ça n'est pas être un nouveau Daladier ou un nouveau Chamberlain cédant devant Hitler à Munich en 1938. L'intérêt des Européens, est-ce que c'est de se ranger derrière un leadership moral états-unien ? Pas davantage. Que l'Europe ait à défendre des valeurs, l'état de droit, le pluralisme, la philosophie des Lumières, certainement. Et c'est pour ça qu'il faut aider l'Ukraine, oui. Mais se ranger derrière Washington, c'est autre chose. Les États-Unis ne peuvent plus se prévaloir du titre de porte-flambeau de la démocratie, pas après leur intervention militaire catastrophique en Irak, pas après les événements du Capitole il y a 1 an et demi. Les Européens doivent débattre par eux-mêmes des buts de la guerre en Ukraine, au Parlement européen comme dans chacun des parlements nationaux. Ils doivent développer leur sécurité collective, défendre leurs intérêts, et ces intérêts ne sont pas nécessairement identiques à ceux du cow-boy américain.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly, et puis le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous.